Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Abdel Mazouz.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation.
À ce débat sur le ring. Je crois que la première fois que je reçois un président de région d'ailleurs sur un ring prêt à enfiler les gants et à mettre des coups.
On va essayer,
mais peut-être avant cela, président, Aptif Mazouz, rendre un hommage. Parce que le groupe, l'ODJ, se joint à moi. Et je me joins également à eux pour rendre un hommage à un confrère qui a perdu la vie, Reda Dalil, ancien directeur de publication du groupe tel quel.
Je partage cet hommage et j'avoue qu'on a perdu une belle plume, un jeune homme plein de qualités. Comme on dit,
complètement. Merci en tout cas à vous également pour cet hommage. Donc, Aptif Mazouz, je rappelle président de la région de Casablanca Stat. Je rappelle également membre du comité central de l'Istiqlal et président de l'Alliance des économistes Istiqlalien. Ce ring en trois rondes thématiques avec vous. Première ronde, Istiqlal, donc ce congrès, 18e, un congrès avec ou sans pression. Point d'interrogation, vous nous direz également, parce que l'État à quelques semaines de la tenue de ce congrès. Deuxième ronde, Casablanca 2030. Entre 2025, l'organisation de la CAN, 2030, l'organisation, la co-organisation de la Coupe du Monde. Casablanca plus près de Calcutta ou de Barcelone. Là, vous nous direz également où situé Casablanca ce jour. Et enfin, la région que vous présidez, Casablanca Stat, une région riche ou un territoire pauvre? Avec un point d'interrogation. Donc, sacré menu, entrée, plat, dessert avec vous, Aptif Mazouz. Donc, sur le premier round, le congrès 18e. Avec ou sans pression?
Écoutez, un congrès où il n'y a pas de pression est un congrès qui reste incolore et inodore. Donc il faut qu'il y ait de la pression. Et je pense qu'il y a de la pression. C'est vrai qu'il y a.
La pression sur qui aujourd'hui? Comme il y a de la pression, il y a la pression sur les.
Sur tous les militants. Tous les militants, parce que tous les militants ont envie de réussir ce congrès. De réussir un tournant dans l'histoire du parti. Le parti est connu pour être un parti très vivant, très dynamique, qui a connu de très belles époques, qui a connu quelques incidents de parcours.
Incidents de parcours, c'est-à-dire la séquence de Hamid Jamal, par exemple, c'était l'incident de parcours ou pas?
Par exemple.
Oui.
Par exemple. Et donc, et avec la sagesse et la bonne conduite de Sénéza, nous aspirons à un parti qui se positionnera comme parti leader du paysage politique.
On va y revenir dire ça sur les objectifs, mais
donc c'est maintenant, la c'est quoi lorsqu'on dit
pression.
Qu'il y a une pression, c'est la pression que, comme je vous l'ai dit, de réussir, d'avoir des bons messages, de préparer un programme du parti sur lequel on travaille, d'arrache-pied, et c'est une pression d'avoir une équipe à la hauteur du parti. On a un secrétaire général qui bénéficie ou qui jouit de la confiance de tout le monde.
Oui.
Maintenant, un secrétaire général a besoin d'une équipe.
Donc, il faut vous appeler au renouvellement et au rafraîchissement des femmes et des hommes qui entoureront le prochain secrétaire général. Parce que ça ne peut pas changer parce que c'est un candidat unique. Cette affaire aujourd'hui, vous avez vu tous les médias s'en emparent, la blogosphère également. Est-ce que ça met un peu de pression supplémentaire sur le 18e congrès d'Istiqlal, cette histoire? À faire aujourd'hui, qui a pris une tournure, d'ailleurs une dimension politico-judiciaire, en tout cas judiciaire, Nordine Médiane, le président du groupe parlementaire de l'Istiqlal à la première chambre. Donc, il y a une ancienne parlementaire, ancienne vice-présidente, vice-présidente d'ailleurs de la région de Tanger-Tétouan, qui a décidé de saisir la justice, Rafia El-Mansouri, là-dessus. Donc, est-ce que ça vient mettre un peu plus de pression et créer plus de tension à quelques semaines de la tenue du congrès?
C'est vrai que ça crée plus de tensions et je ne peux que regretter un peu cette affaire, surtout à ce moment-là. Bon, je la regrette.
Hasard ou coïncidence pour le timing?
Je la regrette dans l'absolu et j'espère qu'elle connaîtra une fin le plus vite possible. Et je la regrette qu'elle arrive à ce moment-là parce que ça perturbe, qu'on ne le veuille pas, ce qu'on est en train de faire.
Est-ce que vous, il y a un lien ou pas? Parce que certains considèrent qu'il y a un lien entre cette affaire et la tenue du congrès. Fin avril, d'ailleurs, c'est du 26 au 28 avril. Mmh. Et certains considèrent qu'en fait, c'est déconnecté de la tenue du congrès fin avril, parce que c'est a priori quelque chose qui est latent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Bah, écoutez, c'est très difficile de dire est-ce que ça a un lien ou ça n'a pas de lien. Mais en tout cas, le fait qu'elle arrive à ce moment-là est très gênant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
C'est gênant pour vous, gênant pour l'ensemble du parti, gênant pour l'ensemble des membres du comité central du parti, gênant pour le secrétariat général du parti.
Gênant pour le parti dans sa globalité. Nous sommes un parti très respecté, qui a des valeurs, qui a une image et qui a une certaine pudeur. Donc cette affaire pose un problème et c'est regrettable que ça soit ainsi.
À
Voilà.
votre niveau, vous avez essayé, vous, d'agir, de... Je sais pas, peut-être, parce que ça reste entre deux personnes du même parti aussi. Hein. Il ne faut quand même pas l'oublier, à la fois Nourdine Bédiane et à la fois Lafia El Mansouri. Est-ce que vous avez essayé, vous, de tenter une connexion, une médiation, un apaisement, une réconciliation, ou pas du tout?
Non, la
Peut-être pas juste.
vérité, si on me le demandait et que je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Mais pour l'instant, personne ne me l'a demandé.
Est-ce que c'est trop tard ou pas trop tard aujourd'hui, sachant que la justice a été saisie, il y a une plainte qui a été déposée, d'ailleurs par Lafia
Je
El
ne sais
Mansouri?
pas, la vérité, je ne sais pas. Est-ce que c'est trop tard ou pas trop tard? Ça,
En tout cas, vous êtes vous disposé.
seuls les concernés le savent.
Mais en tout cas, vous êtes disposé,
Mais
vous,
en
Abdel
tout cas,
Mazouz, en tant que membre du
en tant que
comité central du parti.
que militant du parti, si on me demandait que je pouvais servir à quelque chose, je le ferais. Sans problème, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout dans cette configuration. Et donc,
Et dans quel état d'esprit vous êtes
il y a
aujourd'hui,
des
vous?
choses qui ont été racontées par les
Oui.
médias, comme quoi je faisais partie d'un comité qui n'a pas été reçu. C'est faux. Hein, donc, je m'inscris en faux.
Il n'a pas été reçu, c'est-à-dire, juste pour clarifier, peut-être pour les
Qui n'a pas été
auditrices,
reçu
auditeurs.
par la personne concernée, par donc, Madame
Mansouri.
Mansouri. Donc, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a jamais été le cas et moi j'ai jamais été je n'ai jamais fait partie d'un comité qui devait se rendre et qui n'a pas été reçu. Absolument pas.
Juste pour conclure, juste là-dessus, Abdelatif Mazouz, cette affaire-là, aujourd'hui, la justice a été saisie. C'est quoi? Quand on est en responsable politique comme vous, qu'on fait partie d'un parti, en l'occurrence le Cercle, qui va tenir son congrès, on dit parole à la justice et nous on se prononcera, on n'a pas à se prononcer aujourd'hui, on laisse
Exact.
la justice s'exprimer. Est-ce que c'est la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui?
Moi, je suis dans la position, si on peut rattraper des choses, c'est tant mieux. Si on ne peut pas rattraper des choses, le mieux, c'est de se taire et de laisser la justice faire son travail.
Et après que la justice ait fait son travail, c'est là où éventuellement il y a une prise de parole qui pourrait être prise
Certainement, parce qu'il
après.
faut s'assurer que tout ce qui a été dit est vrai, que l'enregistrement est authentique. Donc, il y a un travail qui doit être fait comme.
Et qui a commencé à être fait d'ailleurs par les éléments de la police judiciaire qui a été saisie, de la cybercriminalité, effectivement, pour authentifier les voix et les sons. Juste là, avant de passer au deuxième mandat, Abdelatif Mazouz, donc. Candidature unique, Elisa Baraka, ce 10e congrès du 26 au 28 avril. Hein. Le fait que Elisa Baraka soit tout seul candidat à sa propre succession, est-ce que certains disent, mais c'est quand même un grand parti, c'est un parti historique, le Cercle. On aurait aimé aussi avoir d'autres candidats. Vous voyez, ça aurait été aussi l'exemple de la diversité du pluralisme. Et là, on se retrouve avec une même candidature, et c'est le sortant qui est candidat à sa succession.
Écoutez, je vais vous dire très honnêtement ce que je pense à ce sujet. Personne n'a interdit à personne de se présenter comme candidat. Donc la candidature est ouverte. Jusqu'au jour du congrès, c'est ouvert. Deux, il y a une quasi-unanimité, pour ne pas dire une unanimité absolue, en faveur de Sénézal. Pour une raison toute simple, c'est qu'il a fait du très bon travail pour le parti.
Même si le parti n'est pas arrivé en tête en 2021?
Ben, n'oubliez pas qu'on était à 41 sièges au Parlement, qu'on est à 82, donc doubler en l'espace de 5 ans, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, et que c'est la première fois qu'on préside quatre régions à travers le territoire, dans la plus grande région du Royaume. Donc, donc le nombre de voix qui ont voté en valeur absolue également pour le parti a connu une croissance à deux chiffres. Donc, je pense qu'on ne peut pas, si je prends aujourd'hui l'équipe nationale qui a réalisé un très bon passe, une très belle Coupe du Monde
Au Qatar,
au Qatar,
mais après qui s'est planté en Côte d'Ivoire.
c'est un accident.
D'accord.
Dans la vie, il y a des
Donc ils
accidents.
vont une troisième chance ou une deuxième chance, c'est ça?
Lui, il a entamé des projets, entamé un process, de mise à niveau du parti sur un ensemble d'éléments. Donc, et puis traditionnellement, pratiquement tous les secrétaires généraux ont fait deux mandats, à l'exception d'un pour des raisons que vous connaissez.
Que je connais, je ne sais pas si je les connais, mais en tout cas, vous les connaissez.
Voilà.
Ça appartient à l'histoire. Et en l'occurrence, c'était Ahmed Chabat. Abdel Mazou, sur le deuxième rang de Casablanca, près d'eux, on en est où? Si on devait positionner, si vous deviez positionner Casablanca sur la carte du monde, est-ce qu'elle est plus près de Calcutta ou plus près de Barcelone? Ce terme et ce phrasé n'est pas de moi, il est d'une personne que vous connaissez très très bien, vous personnellement. En l'occurrence, Driss Benima, qui a été wali d'ailleurs de la région de Casablanca. Est-ce que valeur aujourd'hui, Casablanca est plus près de Calcutta ou plus près de Barcelone?
Géographiquement déjà, elle est très proche de Barcelone. Hein.
Mais elle a toujours été proche de Barcelone géographiquement. Voilà.
Voilà. Donc maintenant, dans l'esprit où ça a été dit par Cédric, d'ailleurs, ni moi ni lui ne connaissons Calcutta, donc on s'achemine vers Barcelone.
Prend la direction de Barcelone.
Oui, ouais, on est très proche, enfin très proche. Tout ce qu'on fait, c'est d'aller vers Barcelone. Donc, en termes, je dirais, de tout ce qui est mise à niveau, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est modernisation, tout ce qui est mobilité, les progrès qui ont été faits. Donc, il faut reprendre juste le plan de développement du Grand Casablanca qui a été signé devant Sa Majesté et toutes les grandes décisions qui ont été prises à l'occasion, qui ont été déployées. Presque 80% sont réalisés en totalité et 20% sont
en cours de
finition. Donc, le Barcelone,
oui.
Mais on dit plutôt Paris ne s'est pas fait en un jour. Casablanca ne peut pas se faire en 10 ans ou en 15 ans. L'essentiel, c'est de sentir que ça évolue favorablement. Donc, aujourd'hui, moi je vous dis, le citoyen casablancais que je suis, j'habite Casablanca depuis 42 ans. Ce que j'ai remarqué comme changement durant les trois dernières années, ou même les cinq dernières années, surtout depuis que Sa Majesté a lancé ce plan de développement. Plan de développement du Grand Casablanca.
Oui.
Donc, on a vécu un peu, les inconvénients des travaux. Et les gens, c'est vrai qu'ils souffrent.
Donc, ça juste de la cohérence des travaux, c'est-à-dire. Le fait que ce soit bien synchronisé, on se retrouve encore aujourd'hui avec une ville, ça fait Casablanca, ça fait 20 ans qu'il y a des grues, qu'il y a des tours, et qu'il y a des travaux ici et là.
Il y a jamais de dynamique. C'est une métropole. C'est une métropole qui évolue. C'est une
mobilité,
métropole
fluidité.
Qui avance.
Oui.
Donc aujourd'hui, on vient d'ouvrir deux lignes du bus à haut niveau de service.
Oui.
Donc le parc autobus a été entièrement rénové. Je ne connais pas
trop de
civils qui ont un parc autobus comme celui de Casablanca.
Oui, Nous sommes
en train de travailler avec l'ONCF sur un schéma de mobilité ferroviaire métropolitain appelé RER.
Urbain.
Et sur un schéma de transport également ferroviaire régional. Et je vous dis, en 2029, puisque vous avez parlé de l'échéance 2030, en 2029, vous aurez Barcelone plus.
À Casablanca. Est-ce que d'ici là, on aura déjà la capacité d'avoir une ville qui traite ses déchets? Parce qu'il y a le vrai sujet aujourd'hui, Abdel Mazou, c'est qu'en fait, on commence tout juste à découvrir le fait qu'il est important de mettre en place des trottoirs pour que les Casablancaises et les Casablancais puissent se assurer une mobilité aussi et puissent se balader dans leur ville à pied, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y avait malheureusement trop de cas.
Aussi,
ça commence tout juste. Mm-hmm. Sauf qu'une ville, aujourd'hui, on fait partie des. Je crois qu'on est quasiment. Les rares sont les mégalopoles et métropoles dans le monde où il y a une problématique en matière de traitement des déchets qui n'arrive pas à traiter ses propres déchets ménagers qu'elle produit. On a le Mediona qui reste en suspens tous les ans. Ça fait d'ailleurs les Casablancaises et les Casablancais sont extrêmement fatigués. Tous les ans, on leur dit ça y est, on a trouvé la solution. Ça y est, c'est réglé. Ça y est, on a la déchetterie. Ça y est, on a fait le bon choix technologique. Ça, bon, c'est, ça va être fait et c'est toujours pas fait.
Et, je pense que vous. Vous allez me permettre d'actualiser un peu les données.
Bien sûr.
C'est pas ce sujet-là. Depuis quelques années, les gens se plaignent. Ceux qui sont bien sûr très proches, ils vivent très mal ça. Ceux qui sont loin de la décharge de Mediona se plaignent des odeurs. D'accord. Depuis maintenant 3 semaines, demandez aux habitants, aux alentours, s'il y a encore des odeurs. Donc il y a eu un travail colossal qui a été fait pour le traitement des lexivia, parce que c'est les lexivia qui sont à l'origine de ces odeurs-là.
Donc, il y a... Mais ça vous dirait, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vent ces derniers temps.
Non.
Parce qu'il y a aussi un couloir de vent qui a fait...
Il y a eu une véritable tempête
la semaine dernière,
mais il n'y a pas eu d'odeur. Deuxièmement, le marché pour l'appel d'offres public, international, pour le recrutement d'un concessionnaire pour justement la gestion de d'une nouvelle déchetterie.
Oui.
Donc, un véritable centre de traitement et de valorisation et d'enfouissement des déchets, parce que ma position personnelle, c'était d'éliminer l'enfouissement, mais c'est une étape nécessaire à la fin du process, en tout cas dans l'évolution actuelle des technologies accessibles financièrement. Donc, normalement, la nouvelle décharge serait opérationnelle.
Serait ou sera ? Parce que c'est quand j'ai toujours, méfie toujours quand j'ai un politique en face de moi, entre l'emploi du conditionnel, le plan du...
Je vous dirais sera lorsque on aura signé le marché. Maintenant,
est-ce qu'on n'a jamais été aussi proche d'une décision finale et d'un règlement définitif de la déchetterie de Mediolan ?
Grâce à l'effort de tout le monde, du ministère de l'Intérieur, de la ville, de la région et donc des communes concernées, notamment la commune d'Yuna, donc
directement concernée,
dans laquelle vit cette déchetterie. Donc il y a eu quand même un effort fait par tout le monde pour arriver à une solution. Que le foncier maintenant est assuré, que la technologie choisie a été définie dans le cahier de charge qui a été donc qui a fait l'objet d'un appel d'offres qui est sur les sites aujourd'hui, tout le monde le sait. Et donc normalement au mois de mai, on connaîtra quel est
l'adjudicataire.
L'adjudicataire
donc au mois de mai, donc c'est dans deux mois.
Voilà, c'est dans deux mois. Et théoriquement, si tout se passe bien, vers la mi-2025, on aura la première partie de cette déchetterie qui sera opérationnelle. Et on va plus loin, si vous permettez, puisque vous parlez de ce sujet, compte tenu du foncier qui est disponible, et on s'inscrit un peu dans tout ce qui est développement durable sur lequel nous sommes engagés, comme région, comme commune, comme pays. Donc, d'installer un écosystème tout près de cette...
Un écosystème, c'est-à-dire de
revalorisation des déchets, d'une part, et également de rassemblement de tout ce qui est ferraille et valorisation de ces ferrailles, donc dans le même foncier. Donc on s'est rendu compte qu'on peut...
Donc vous avez créé un écosystème
pour faire travailler également ce qu'on appelle les chiffonniers, les faire travailler dans un cadre plutôt...
Donc vous allez faire un recyclage aussi au niveau des emplois et des métiers.
Exactement.
Donc grosso modo, l'adjudicataire devrait être choisi, connu en tout cas au mois de mai.
Au plus tard, fin de mai.
Voilà, et première tranche de fonctionnement de cette nouvelle décharge automatisée, nouvelle technologie.
Neuf mois après,
donc ça serait à cheval entre 2024 et premier semestre.
C'est plutôt premier semestre 2025, voilà.
Juste la dernière question avant de passer sur la région, parce que vous êtes président de région, mais restons sur Casablanca. Certains considèrent qu'on est en train de dénaturer l'identité même de Casablanca. C'est-à-dire que même si effectivement il y a des progrès qui ont été consentis au niveau de la mobilité, il reste encore beaucoup à faire, parce que c'est encore hyper et très congestionné. Mais c'est surtout sur le patrimoine, sur les habitations menacées en ruine. On a encore vu deux habitations qui se sont effondrées il y a encore quelques jours là-dessus. Et le fait qu'on annonce, peut-être confirmé aussi aujourd'hui d'ailleurs, un palais des congrès, donc de l'infrastructure nécessaire pour une ville comme Casablanca, mais quand on n'a pas encore le basique, on se dit, voilà, est-ce qu'on va là aujourd'hui, ce ne serait pas d'abord de préserver d'abord le patrimoine. Quand on se balade dans le vieux Barcelonais, par exemple, le vieux Barcelone, on a de l'authenticité en matière de patrimoine, par exemple.
Ouais.
Est-ce que là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui est délaissé et relégué au second rang ?
Absolument pas. Il ne faut pas présenter les projets comme étant des
pas
projets
les opposer.
Exclusifs. C'est vrai qu'il faut faire des choix. On a fait des choix et on a intégré aussi bien la préservation du patrimoine que le développement de la ville pour, si vous voulez, qu'on joue toujours ce rôle de métropole, pilote au niveau du continent, de hub, préserver notre... rang de première place financière au niveau africain, il y a des efforts à fournir.
Mais donc, des efforts financiers.
Des efforts est-ce que l'effort financier
qui est consenti pour la préservation du patrimoine, est-ce que selon vous, Tif Mazouz, est-ce qu'il est suffisant?
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème d'effort financier. On a signé, nous, la région, avec le ministère de la Culture, une convention sur les 5 années, 2024 jusqu'à 2028. Et c'est la première fois que ça se fait, avec des moyens aussi importants. 680 millions de dirhams engagés.
Sur 5 ans. Donc si on divise 600 par 5, ouais, on est à combien? On est à 100 millions
de
dirhams.
Non, monsieur, non, ça fait 140 millions par année.
140 millions de
dirhams. 140 millions de dirhams, ça c'est juste ce que nous faisons, plus une convention qui a été signée toujours entre le ministère et la ville de Casablanca. Donc sur un ensemble d'aspects. Dans cet aspect-là, on a commencé à déployer. Je vous assure que le problème n'est pas un problème de moyens, un problème de procédure, de savoir-faire. Et donc,
de procédure, de savoir-faire, c'est-à-dire d'un point de vue administratif, où il n'y a pas les corps de métier pour tout ce qui est préservation du patrimoine, les entreprises.
Les corps de métier existent.
Où est-ce qu'il y a un problème de relatif savoir-faire?
C'est l'approche, c'est la méthode, c'est un métier. Donc, j'ai été à Paris il y a 2 semaines, et parmi les choses que j'ai demandé à mon homologue, la présidente de France,
c'est de
nous donner un coup de main sur tout ce qui est lié à la culture, parce que vous savez ce que représente l'économie culturelle en France. Donc, dans les 680 millions de dirhams, il y a une bonne partie qui est justement dédiée à la préservation du patrimoine matériel, mais aussi du patrimoine immatériel de la région de Casablanca et de la ville de Casablanca.
Et justement, la transition est toute faite, Aplif Mazouz, et je vous en remercie pour qu'on passe au troisième round. Justement, la région de Casablanca, donc région de Casablanca Stat, une région riche quand on voit sa contribution au PIB national, plus d'un tiers. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un territoire pauvre? Parce qu'on arrive à combiner nous, à la fois de la richesse en termes de PIB, mais à la fois on concentre le plus de chômeurs au mètre carré dans la région. Alors, est-ce que c'est une région riche ou un territoire pauvre?
Bon, d'abord, je commencerai par dire que c'est une région riche, pour une raison toute simple, c'est que on a, si je vous aligne des superlatifs, c'est-à-dire toutes les premières places qu'on a au niveau national et au niveau continental, on va y passer la séance. Donc, sur ce plan-là, je peux vous dire, avec le tiers du PIB, avec presque 50% de la production industrielle et de l'export, toute l'activité financière qui est là, 40% du parc automobile. Donc c'est,
mais en même temps, c'est le taux de chômage le plus élevé de la région, c'est la région de Casablanca-Stat.
Le nombre de personnes
qui sont le plus en précarité, précarité sociale, c'est dans la région de Casablanca-Stat.
Non. Si je devais dire les deux grands défis de la région, ils sont le chômage, parce que c'est une région qui reçoit des chômeurs de tout le pays. C'est une région connue par sa dynamique, connue par les opportunités qu'elle présente, et donc les gens viennent pour chercher de l'emploi, et du coup, donc automatiquement, ça gonfle les rangs de chômeurs.
Du chômeur du stock, déjà.
Existant sur le territoire, parce qu'on ne traite pas les chômeurs par leur origine régionale. Deuxièmement, donc, le deuxième phénomène dont souffre la région, c'est le stress hydrique. Donc, c'est, à mon avis, c'est un phénomène. Pardon, selon mon avis, c'est l'avis de tout le monde, c'est le phénomène le plus stressant. Parce qu'on a le stock d'eau rapporté à la population qui est le plus faible du pays. Et donc,
Est-ce qu'on est dans la région où les mesures qui ont été prises par le pays dans les différentes régions, est-ce que c'est la région Casablanca-Stat qui a été le plus pénalisée par les mesures de restriction en matière d'eau qui ont été prises ces dernières semaines, ces derniers mois? Parce que certains considèrent qu'il y a une autre forme d'inégalité qui s'est développée avec le stress, mais plutôt la pénurie en eau. C'est le fait qu'on a protégé un peu Casablanca-Stat, et que Casablanca-Stat et les habitants ont été beaucoup plus mieux choyés, en tout cas, que certains habitants d'autres régions qui, eux, par contre, ont été confrontés à des coupures d'eau nettes.
Je ne connais pas le détail des différentes régions. Maintenant, ce que je sais, c'est que nous avons travaillé tous, autorités, élus, gouvernements, etc. Et il y a eu des investissements conséquents pour essayer de sauver la situation hydrique dans la région de Casablanca-Stat. Et on n'a pas tout réglé. Mmh. On a réglé une partie, et toute la partie intérieure du territoire, et je parle par exemple de la province de Stad, Sidi Bou Nord, une partie de Ben Slimane, une partie de...
C'est une région très, c'est agricole, parce que vous êtes à la tête d'une région en fait où il y a de la ville, il y a de l'urbain, voilà. Et c'est Casablanca, il y a sept provinces, donc il y a Barchid, Sidi Bou Nord, Jdida, Midiouna, Nouassal, on voit bien que c'est des régions aussi à vocation agricole.
Je reviendrai là-dessus. Donc il y a un effort qui est en train d'être fait, ce n'est pas encore fini, donc on continue d'investir, et je suis sûr et certain que le même effort est fait partout. Donc maintenant, il y a la proximité de la ressource, on n'a pas été favorisé par rapport à d'autres, on a eu la chance d'avoir le bassin de Bourgrag à côté, donc qui était facilement moyen.
Oui, il a
6 milliards de dirhams quand même pour conduire de l'eau, et donc on est alimenté pour la partie nord par cet aspect-là. Et puis on a la chance d'avoir l'OCP, Agence qui a devancé les événements, qui a commencé à faire du dessalement de l'eau de mer pour ses propres besoins, et qui maintenant alimente
une partie.
100% la ville de Jadida. Également la commune de Moulay Abdallah. Dans quelques semaines, ça sera également le cas d'Azemmour. Et je parle des territoires qui sont dans la région.
Dans votre circonscription.
Et nous sommes en train de travailler avec les ministères concernés sur des stations monoblocs, des petites stations de dessalement qui vont être un peu à l'intérieur du
territoire. Ça, c'est par rapport à la gestion hydrique sur la région.
Maintenant, sur la richesse et la pauvreté du territoire, juste deux chiffres. Nous sommes un territoire de 7,5 millions d'habitants.
Même si le HCP va produire un nouveau recensement.
Voilà, donc c'est une évaluation approximative, mais assez rationnelle, avec 80% de la population, un peu plus, qui vit dans les périmètres urbains, mais 80% du territoire est rural. Donc, vous voyez, 20% de la population vit dans le rural, mais dans 80% du territoire. Et donc, c'est là où je vous dis qu'il y a un effort sur l'idée du territoire qui n'est pas riche ou qui est pauvre. Donc, on l'a constaté.
Donc, ça veut dire que Casablanca, c'est à la fois une région riche et à la fois une région. Et à la fois un territoire qui est pauvre.
Il y a une partie du territoire qui mérite un effort particulier. C'est pour ça que. La réglementation, la loi sur la régionalisation a responsabilisé les conseils régionaux du développement rural.
Et qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Et nous sommes en train d'investir à peu près, si je prends un ratio avec, en mettant tout ce qui touche le rural, nous tournons autour des 40% du budget qui va vers le rural.
40%?
Oui. Entre l'eau, l'éclairage, la mise à niveau des sites, l'équipement, les routes, etc. Donc, les écoles, notamment...
Donc, 40% du budget est alloué au rural.
Voilà.
Est-ce que ce budget a permis de créer de la richesse sur les territoires, à créer de l'emploi? Quand je vois que ce 25% du taux de chômage global, c'est la région de Casablanca-Stat, 25%. Du taux de chômage, c'est-à-dire que vous êtes deux fois supérieur à la moyenne nationale. Voilà. Mmh. Je me dis, est-ce que ces 40% de budget que vous dites qui sont alloués chaque année au monde rural, je rappelle que vous avez la majorité des provinces de votre région qui sont
pas,
rurales.
Je ne peux pas être très technicien, mais faites un calcul de moyenne.
Oui.
Lorsque dans une autre région, vous avez la moyenne, il y a l'urbain, il y a le rural. Mmh. Partout, le taux de chômage urbain est plus élevé. Et comme nous sommes une région à 80% urbaine, c'est normal que notre taux soit plus élevé que la moyenne. Vous voyez, donc, parce que la pondération de 80% pèse énormément sur le taux de chômage de la région. Mais, je vous l'ai dit, il y a aussi de l'appel de l'air qui est fait par la région pour le reste de la population du Maroc. Et ce qui nous oblige à faire de tout ce qui est économique, développement de l'investissement, de la création d'emplois, la première de nos priorités.
Première de vos priorités, justement, juste en guise de conclusion, comment vous expliquez que le secteur privé est très timide et investit très peu dans la région? Je sais que je crois que c'était en octobre ou novembre dernier, 2023, lorsque vous êtes parti avec pour le présenter votre PDR, plan de développement régional, vous avez été reçu au siège du patronat, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était octobre ou novembre 2023. C'est à peu près ça, on pourra chercher plus tard, c'est octobre 2023.
C'était un mois après le séisme.
Voilà, donc c'était fin octobre, début novembre.
Voilà.
le secteur privé n'investit pas chez nous, dans cette région, ou très peu, beaucoup trop peu. Donc comment vous expliquez, comment on peut faire décoller cette région, d'avoir une croissance économique qui soit mieux territorialisée en tout cas, si le secteur, comment expliquez-vous que depuis que vous êtes prise dans la région, vous n'arrivez pas, vous et vos prédécesseurs, c'était la même chose, à attirer beaucoup plus d'investissements privés?
Ah, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, hein. Moi je ne suis pas d'accord.
Bon, ouais, mais allez-y, parce que moi, ce chiffre à l'appui, le privé n'investit pas. Et quand je me suis renseigné, j'ai demandé au privé pourquoi il n'investit pas. Il nous dit parce qu'on n'a pas de foncier disponible et de foncier industriel et que le foncier coûte trop cher à Casablanca parce qu'il est rare. Voilà ce qu'on m'a répondu.
Vous m'avez tendu la perche, c'est bien.
Donc,
nous, on est très conscients de cette problématique, qui n'est pas la seule, mais la problématique des fonciers est là. Donc, c'est pour ça que nous sommes investis nous-mêmes. Et nous sommes en train d'investir dans l'acquisition de fonciers qu'on va équiper pour le mettre à la disposition des entreprises à des coûts très accessibles.
En quoi? En leasing, location,
comme la chinoise? Notamment en location.
À combien le mètre carré?
Écoutez, en ce moment, on loue le terrain nu à quelque chose comme 6,50 dirhams le mètre carré, donc équipé, hein, donc nu équipé. Et qu'un bâtiment, un hangar... équipé également.
Ça veut dire que la région va se doter d'une assiette foncière,
c'est ça ? On est en train de la session de mars, on a passé un accord de la région pour l'acquisition déjà de 400 hectares à travers la région, et dans lesquels il y a de grandes zones industrielles, mais dans lesquelles il y a aussi ce que nous appelons des zones d'activité économique de proximité. C'est-à-dire des endroits où on peut faire de la TPE, de la PME, mais très proche de l'habitat.
Du
lieu de vie pour éviter justement des coûts de mobilité du personnel.
Le gros problème, c'est le gros problème de logistique aussi, parce que je sais que vous avez été interpellé par le patronat aussi là-dessus, parce que ces futurs lots fonciers que vous êtes en train de mobiliser au niveau de la région pour constituer une assiette foncière, peut-être Mazouz là-dessus, vous dites, bon, ça ne sera pas trop cher, 6, 7, 8, 10 dirhams le mètre carré, tout avec une combinaison, c'est-à-dire une offre globale, mais qui va être située où? Parce que là où le foncier sera disponible et pas trop cher, il faut aussi qu'il soit dans des endroits un peu stratégiques. On ne sera pas obligé de traverser tout le... ce soit éloigné des infrastructures de base et des routes, des autoroutes et des ports.
Ça fait partie des critères de choix. Hein. On n'est pas allé prendre n'importe quel foncier. Et nous sommes en train aujourd'hui, au compte cette semaine, il y a eu des réunions avec le patronat justement sur... certaines de ces zones pour dire quel type d'activité sur lesquelles on travaille, etc., de manière à ce que les choix soient des choix concertés. Et j'aimerais ne pas vous laisser partir sur cette question en disant que le privé marocain n'investit pas. Le privé marocain
investit trop peu, c'est connu et reconnu quand on va là.
Investit, oui. En tout cas dans notre région, il y a beaucoup d'investissements marocains.
Oui.
Il n'y a pas d'endroit libre à l'investissement, il y a, surtout depuis la sortie du fameux plan de l'industrie pour tout ce qui est
sur les zones industrielles,
souveraineté, tout ce qui est souveraineté industrielle. Donc 40% des projets qui ont été pris sont au niveau de la région Casablanca. Donc ça veut dire que c'est une région très prisée. Moi je vous dis, je le répète partout, nous sommes une région qui s'achète, qui ne se vend pas. Maintenant il faut que ça soit acheté par des gens qui vont créer de la valeur, qui vont avec des industries pas polluantes, parce que nous sommes une région suffisamment polluée.
C'est la région la plus polluée du pays. Après avoir le taux de chômage le plus élevé, c'est la région aussi la plus polluée.
On ne peut pas être premier industriel, la moitié de la production industrielle, et ne pas être le premier pollueur. Donc maintenant, il faut s'acheminer vers des industries moins polluantes et pousser celles qui existent à le devenir moins, de manière à réduire cette pollution, notamment, mais aussi sur la mobilité, le travail sur la mobilité. En ayant 40% du parc automobile, si on réduit la mobilité individuelle, nous allons réduire énormément la pollution au niveau de la
Donc vivement les bus électriques à profusion et les véhicules électriques.
Et les trains.
Et les trains.
Et les trains.
Et d'avoir une ville aussi avec des trottoirs où on puisse aussi se balader et bouger à pied ou en vélo.
Et des couloirs en vélo.
Merci. Donc ça, on peut l'espérer avant quand? En 2029, 2028?
Il faut 2030. Que ça soit prêt avant 2029.
Avant 2029? C'est le Wally, le monsieur Turbo, parce que je sais que vous l'avez interpellé, vous l'avez dénomination de ce nouveau Wally, Mohamed Hidia Turbo. Donc c'est grâce à M. Turbo, on aura le 2028-2029, on aura des trottoirs, on pourra se balader en ville en vélo.
M. Turbo, qui a cet avantage d'être un homme de terrain, qui connaît les petits détails des opérations et donc qui pousse à la réalisation et qui s'inscrit avec nous sur les plans sur lesquels nous avons travaillé et nous continuons de travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui impose, c'est quelqu'un qui facilite, qui accélère. Et c'est très bon rôle qu'il joue.
Donc bientôt, les Casablancaises et les Casablancais ne jalouseront plus ou jalouseront moins l'air bâti.
Ils les jalouseront moins. Vous avez posé la question sur Barcelone. Nous serons très proches de Barcelone. Mais en tout cas, nous ne serons jamais comme Rabat parce que ce sont des villes très différentes par leur population, par leur vocation, par leur activité, etc. L'idée, c'est d'aller vers Barcelone.
Ben on ira vers Barcelone,
et
en tout cas.
Que je souhaite beaucoup de succès et que bravo pour Rabat. Elle a un cachet spécial qu'elle doit préserver qui concerne Rabat.
Merci infiniment à vous. En tout cas, Petit Mazo, c'est très sportif avec vous, ce ring, l'ODJ TV Radio. Je rappelle président de la région donc de Casablanca Stat, membre du comité central de l'Istiqlal, également, et je le précise aussi, président de l'Alliance des économistes Istiqlaliens. Merci à vous d'être monté sur le ring. Et puis,
merci.
Bon, voilà. C'est là-bas que ça se passe. Voilà.